grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. En octobre dernier, deux chercheurs en cancérologie ont reçu le prix Nobel de médecine pour leur découverte sur l'immunothérapie des cancers. James Allison et Tasuku Honjo ont montré comment le système immunitaire pouvait être utilisé dans le traitement des cancers. Nous verrons pourquoi cette révolution médicale peut offrir un espoir de guérison face à la première cause de mortalité dans le monde, la première chez les hommes en France et la deuxième chez les femmes. Vous saurez d'abord comment naît un cancer, quelles sont les stratégies classiques pour le combattre, et puis nous verrons si l'immunothérapie remplacera un jour les traitements classiques comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, si ce sera demain le traitement de référence en oncologie. De nombreux patients toutefois ne répondent pas à ces nouveaux traitements qui restent très onéreux. Pour nous éclairer ce matin, les spécialistes en immunologie, Éric Vivier et Marc Dairon, qui viennent de publier l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale, et avec nous également ce matin, Aline Perraudin du mensuel Santé Magazine. Toutes vos questions sur cette révolution médicale, vos témoignages sur l'immunothérapie des cancers au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Écrivain, médecin, auteur du blog Alors Voilà. Chaque semaine, dans votre chronique, vous nous présentez une médecine à visage humain.
Aujourd'hui, on va faire un petit jeu de rôle. Je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un médecin, Ali.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébé.
Et pour nous raconter ce matin la révolution médicale de l'immunothérapie des cancers, deux spécialistes. Bonjour Éric Vivier.
Bonjour.
Professeur d'immunologie à l'université Aix-Marseille et praticien hospitalier. Bonjour Marc Dairon.
Bonjour.
Immunologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM au centre de Marseille-Lumini. Alors quelques chiffres d'abord. Selon l'Institut National du Cancer, 3 millions de personnes vivent aujourd'hui avec un cancer ou en sont guéries. On estime à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancer et à 150 000 le nombre de décès en 2017. Les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du colon rectum et du poumon. Et le nombre de cas va mécaniquement augmenter parce que la population française augmente et compte de plus en plus de personnes âgées. Alors, le cancer est une maladie décrite depuis l'Antiquité. Hippocrate comparait les tumeurs à un crabe parce que l'aspect de certaines tumeurs rappelait les pattes du crabe. Qu'est-ce que le cancer d'un point de vue biologique et médical? Sur le plan biologique d'abord, Éric Vivier.
On est tous composés de cellules et en fait ces cellules, quand elles ne peuvent plus contrôler leur prolifération, elles peuvent devenir un cancer. Donc le cancer, c'est une prolifération anormale de nos cellules.
Donc les cellules se multiplient de façon anarchique et prolifèrent.
Exactement.
Alors d'abord localement, puis dans le tissu avoisinant, puis à distance où elles forment des métastases, Marc Dairon.
Oui, donc le cancer, c'est lié au fait que des cellules poussent là où elles ne devraient pas pousser. Hein, elles poussent anormalement et là où elles ne devraient pas pousser. Alors évidemment, ça commence localement, là où il doit y avoir normalement une cellule. D'un moment, il y en a deux, puis quatre, puis 16, puis 32, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça fait une grosseur, une tumeur. C'est ça, une tumeur. Hein, c'est une grosseur, pas autre chose. Et lorsque ça commence à envahir les tissus qu'il y a autour, à désorganiser les tissus qu'il y a autour, là, ça devient déjà un cancer. Et puis, lorsque des petits morceaux, des cellules, quittent ce cancer, passent par la voie sanguine ou par d'autres voies, comme la voie lymphatique, et vont s'installer dans d'autres tissus et se mettent à leur tour à pousser pour leur propre compte, eh bien, ça, ce sont des métastases et on est maintenant face à un cancer métastatique.
Alors, nous sommes constitués par un nombre incalculable de cellules, de l'ordre de 10 000 milliards. Est-ce qu'il est facile de distinguer une cellule saine et une cellule cancéreuse? Éric Vivier.
Alors, oui et non. Comme on vient de le dire, une cellule saine va avoir un programme, un programme de vie, un programme de prolifération qui est totalement contrôlé. Une cellule cancéreuse, comme on vient de le dire, c'est pas le cas. Et donc, il va y avoir des anomalies à tous les niveaux de la cellule qui vont pouvoir distinguer une cellule normale d'une cellule cancéreuse. Le problème, et on y reviendra pour le système immunitaire, c'est justement de distinguer le bon grain de l'ivraie et de savoir quelles sont les différences. Mais j'imagine qu'on va y revenir.
Alors sur le plan médical, le mot cancer désigne un groupe de maladies très diverses. Il est plus juste de parler des cancers, Éric Vivier.
Oui, alors en fait, on a au minimum 400 types cellulaires différents dans l'organisme, hein, et on pourrait en débattre. Et chaque type cellulaire peut se transformer en cellule tumorale. Donc on va avoir vraiment un ensemble de pathologies. On devrait parler des cancers plutôt que du cancer. Et ça a des conséquences extrêmement importantes en biologie et en médecine. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, personne n'imaginerait comparer la malaria à une infection par le virus de la grippe. En réalité, quand on parle des cancers, on fait un peu cet amalgame, en tout cas en termes médicaux. Donc il faut bien distinguer à chaque cancer, à chaque fois une prise en charge différente, et même pour un type de cancer, à chaque patient une histoire médicale différente.
Marc Dairon.
Et on pourrait presque rajouter pour chaque cancer lui-même une grande hétérogénéité, une grande variabilité, c'est-à-dire que un cancer d'un type donné chez un patient donné et va lui-même être extrêmement différent du même type de cancer chez le patient d'à côté et à différents moments même dans la vie du cancer. C'est-à-dire qu'il va sans arrêt se modifier.
Et il n'existe pas de cause unique d'un cancer. Il existe à la fois des facteurs externes et internes. Oui. Des facteurs externes liés à l'environnement.
Alors tout à fait, dans les facteurs externes les plus connus, hein, il y a quand même les causes infectieuses. Il faut pas oublier quand même une partie signifiante, importante des cancers est quand même la conséquence d'une infection virale ou d'une infection bactérienne. Alors ensuite, il y a toutes les autres causes environnementales qui sont non infectieuses. Et en particulier, on suspecte, on fait plus que suspecter, mais il n'y a pas de lien aussi directement démontré qu'avec les microbes, dans le cas où l'environnement peut effectivement favoriser tel ou tel type de cancer.
Les perturbateurs endocriniens, les rayonnements, et puis il y a le mode de vie également. Mmh. Et bien sûr, le tabac, l'alcool.
Alors justement, sur le tabac est certainement une des exceptions à ce que je viens de dire. Hein. Le tabac est véritablement la cause majeure des cancers que l'on connaît bien, qui étaient avant les cancers de la gorge, du larynx, et qui maintenant sont des cancers du poumon.
On peut rappeler peut-être les cancers qui ont pour origine un virus, une bactérie. Je pense au papillomavirus.
Oui, alors le cancer du col de l'utérus chez la femme en particulier est un cancer qui est vraiment la conséquence d'une infection virale.
Ou bien le virus de l'hépatite B.
Tout à fait.
Il y a également des facteurs internes, comme l'âge ou l'hérédité. Marc Dairon.
Oui, en fait, il y a les facteurs externes ou les facteurs internes. D'ailleurs, le résultat, ça va être toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi qui va favoriser, qui va modifier l'ADN, qui va modifier les gènes dans les cellules, de telle sorte que l'ADN va se casser, va se réparer, va être modifié. Tous ces facteurs qui favorisent ce processus, qui par ailleurs est un processus normal, mais tous ces facteurs qui vont amplifier ce processus, augmentent le risque que des cancers se produisent. Parce qu'au fond, ce qui réunit tous ces cancers, c'est qu'il y a des mutations qui apparaissent, qui sont responsables du fait que ces cellules se mettent à proliférer indépendamment du contrôle qui normalement les astreint.
Alors comme il existe des cancers, il existe donc différentes thérapies pour traiter ces cancers.
Tout à fait.
Quelles sont les principales d'ailleurs ?
Alors, on va distinguer, puisqu'on va parler de l'immunothérapie, deux sortes de traitements. On va considérer les traitements d'avant, les traitements conventionnels, qui sont très importants, hein, et puis l'immunothérapie. Alors les traitements conventionnels, ils ont tous la même cible. Cette cible, c'est la cellule tumorale elle-même, ou le cancer lui-même. Donc on essaye de les enlever, c'est la chirurgie. On essaye de les tuer, c'est la chimiothérapie. On essaye de les brûler, en quelque sorte, pour faire simple, et ça, c'est la radiothérapie. On va voir qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de traiter les cancers, qui n'est plus de cibler les cancers, mais de cibler notre système immunitaire. On y reviendra. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, il va falloir combiner tous ces traitements ensemble, de telle manière à offrir la meilleure prise en charge possible des cancers chez l'homme.
Oui, le changement qui se produit là et là où après ce qui vient d'être dit, c'est que après avoir cherché à directement attaquer le cancer, à vraiment essayer de l'enlever, l'éradiquer, le tuer, le brûler, enfin toutes les façons possibles, eh bien on change de point de vue, on change de stratégie. Au lieu d'aller directement sur le cancer, on va dire au fond, on va faire en sorte que ce soit pas nous, que ce soit pas le médecin qui directement enlève le cancer, mais que ce soit le système immunitaire du patient qui prenne en charge ce travail.
Pourquoi écrivez-vous que l'immunothérapie est le fruit d'un paradoxe ? Éric Vuillet, Marc Dairon.
Il me semble qu'il y a plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que quand même, un cancer, même si des agents extérieurs peuvent le favoriser, Un cancer, ça n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, comme les maladies infectieuses, et qui ont, au début de l'immunologie, hein, ont été un succès extraordinaire, qui ont montré que le système immunitaire pouvait effectivement faire des choses et soigner les gens. Le problème, c'est que le cancer, ça vient pas de l'extérieur, malgré tout. C'est des cellules de nous-mêmes, qui sont différentes, qui sont transformées, mais qui restent des cellules de nous-mêmes. Donc le paradoxe, c'est que on a compris, ou on a cru comprendre, ou on a défini le système immunitaire de cette façon-là. Le système immunitaire, c'est fait pour reconnaître ce qui n'est pas nous, et ce qui vient de l'extérieur et qui va nous rendre malades. Là, le problème, c'est qu'il va falloir reconnaître quelque chose qui vient de nous. Et a priori, on n'avait pas cette notion que le système immunitaire, il savait voir cela et prendre en charge nos propres cellules. C'est ça le premier paradoxe.
Baptiste Beaulieu.
Est-ce qu'il est vrai que le système immunitaire, à chaque instant, naturellement, reconnaît des cellules qui auraient éventuellement un potentiel cancérigène et les élimine naturellement?
Alors c'est une notion très importante, hein. C'est cette notion qu'on appelle la surveillance immunitaire. L'idée, c'est qu'à l'instar du fait, et ça on le sait, que notre système immunitaire surveille en permanence notre organisme contre des infections microbiennes, c'est-à-dire par des virus, par des bactéries, par des champignons, l'idée a germé dans la tête de certains, dans les années 1950 en particulier, et consistant à dire qu'en fait, on devait surveiller aussi, notre système immunitaire devait surveiller tout le temps l'apparition de certains cancers. Alors, en fait, la démonstration a été obtenue de manière formelle il n'y a pas très longtemps, au début des années 2000, chez la souris. Et de manière très simple, hein, on prend des souris qui ont un système immunitaire, on prend un autre groupe de souris, contrôle, qui n'ont pas de système immunitaire, et puis on fait en sorte d'induire des cancers dans les deux types de souris. Et on voit que l'incidence des cancers, c'est-à-dire le nombre de souris qui vont développer des cancers, est beaucoup plus important quand il n'y a pas de système immunitaire. Cela dit, chez l'homme, la démonstration véritable que les cancers qui ne sont pas dus à des causes infectieuses sont dus à une baisse de contrôle du système immunitaire n'a pas été véritablement obtenu.
Allez, dans quelques instants, pour mieux comprendre la révolution médicale qu'est l'immunothérapie, nous verrons comment fonctionne le système immunitaire. Nous attendons toutes vos questions sur l'immunothérapie des cancers, vos témoignages au standard de France Inter 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Antoine Vandeville, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Nicolas Bove, à la réalisation Stéphanie Texier.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout joué sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, un catimini. Et va la nave et va la douce vie, on s'en ira toute la vie danser le calypso. S'en aller au matin, boire un dernier martini, et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave. S'en ira toute la vie danser le calypso en Italie et boire un libretto main anthropo du Grand Paris quand Paris est à l'eau.
Hey, merci.
tube interprété Voyage en Italie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h21 et ce matin on s'intéresse à l'immunothérapie des cancers, cette révolution médicale qui change déjà la vie de nombreux malades. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Écoutons notre consoeur de France Inter, Daniel Messager, à l'occasion du prix Nobel de médecine décerné en 2018 à Tasuku Honjo et James Allison pour leur découverte sur l'immunothérapie des cancers.
Le principe de l'immunothérapie, en fait, c'est une nouvelle étape dans la lutte contre les cancers. Avant, il y avait seulement comme arme thérapeutique la chimiothérapie et la radiothérapie. Les lauréats du Nobel ont ouvert une nouvelle porte, car lors d'un cancer, les cellules du système immunitaire ne parviennent pas à le protéger des agressions. Le professeur Caroline Robert est cancérologue à l'Institut Gustave Roussy. Elle a été l'une des premières à en faire bénéficier ces malades dans le traitement du mélanome.
Ces deux chercheurs ont démontré qu'on pouvait activer le système immunitaire d'une façon tout à fait originale par rapport à ce qu'on essayait de faire avant. Au lieu d'essayer de pousser tous les signaux positifs, en fait, ils ont pensé à bloquer des freins de l'activation du système immunitaire, des signaux négatifs. C'est une révolution. Ce qui est remarquable, c'est que dans un certain nombre de cas, on obtient des rémissions complètes et on peut même arrêter le traitement. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant.
Éric Vivier, Marc Dairon, je rappelle que vous publiez l'immunothérapie des cancers. Alors, avant de savoir exactement ce que c'est, j'aimerais savoir ce qu'est l'immunité. Vous écrivez qu'elle est distribuée au hasard, elle est inégalitaire, profondément injuste. Marc Dairon.
Oui, ça c'est l'immunité des origines, ouais. C'est l'immunité d'avant l'immunologie, ouais. Hein, c'est l'immunité des survivants des infections. Alors dans ce sens, oui, l'immunité elle est connue de toute éternité. On sait très bien que dans les grandes épidémies qui ont balayé les hommes et qui les ont absolument décimés tout au cours des millénaires, eh bien on a toujours remarqué qu'il y avait des gens qui n'étaient pas atteints, qui n'étaient pas malades. Ça, c'était une première chose. Et puis la deuxième chose, et ça, c'est une espèce d'immunité, immunité naturelle, une immunité qui faisait que ces privilégiés survivaient. Et puis, il y avait une unité, on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait une unité qui pouvait être acquise. C'est-à-dire que ceux qui étaient malades, mais qui n'en mouraient pas, eh bien, en général, quand l'épidémie revenait, ils étaient protégés. Pas toujours. D'autant que les épidémies, parfois, reviennent à des siècles et des siècles de distance. Donc, c'est difficile à voir. N'empêche qu'on pouvait acquérir cette immunité. Et donc, ça voulait dire que, eh bien, il était possible de s'immuniser. Il était possible de stimuler une immunité et que la maladie elle-même était à l'origine de cette stimulation. Et ça a été l'origine de ce qu'on pourrait appeler une espèce de démocratisation de l'immunité. C'est-à-dire, ça cesse d'être un privilège. Et ça a été, les grands pionniers de la vaccination, que ce soit Jenner d'abord, mais que c'est essentiellement Pasteur, eh bien, et Koch, à moindre titre pour les vaccinations, mais le fait que l'immunité devient la chose du monde la mieux partagée. Tout un chacun peut se doter d'une immunité à condition de savoir manipuler les germes qui sont responsables des maladies.
Comment fonctionne le système immunitaire? Comment s'organisent nos défenses dans l'organisme? Quelles sont les forces en présence? Éric Vivier.
Alors en fait, ça dépend de quelle espèce on parle. On va s'intéresser à l'homme, hein, l'homme et la femme évidemment. Et en réalité, c'est une vaste chorégraphie qui est très belle par ailleurs, entre des types de cellules qui sont assez différents et répartis dans tout l'organisme. Alors en fait, on peut distinguer deux sortes d'immunité pour faire simple. D'un côté, l'immunité innée et de l'autre côté, l'immunité adaptative. Alors l'immunité innée, c'est l'immunité de tout un tas de cellules qui sont véritablement partout dans l'organisme, en particulier aux zones d'interface avec l'extérieur, donc l'intérieur du tube digestif ou alors la peau. Parce que c'est là que va y avoir effectivement des contacts possibles avec les microbes en particulier. Et toutes ces cellules ont une particularité, c'est qu'elles peuvent reconnaître certains signaux qui vont venir des virus, des bactéries par exemple, et qui vont pouvoir les activer de manière extrêmement rapide. Donc c'est tout le temps et tout de suite. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie dans ce système immunitaire, qui est le système immunitaire adaptatif, qui lui, premièrement, qui n'apparaît dans l'évolution qu'à partir des vertébrés, c'est-à-dire les animaux qui ont des vertèbres, donc il y a 550 millions d'années. Bon. Et en particulier, chez nous, il y a deux types de cellules qu'on appelle des lymphocytes. On peut oublier le nom, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais en fait, ces cellules, elles sont par contre très importantes pour nous. Et on le sait par la clinique. On le sait par la clinique parce qu'il y a des enfants qui ont des mutations et qui empêchent le développement de ces cellules-là. Et ce sont les fameux bébés bulles que l'on doit traiter afin qu'ils puissent récupérer une immunité adaptative. Donc, il y a une articulation entre l'immunité innée qui est tout le temps, tout de suite, et l'immunité adaptative, et c'est ça que j'ai pas dit, qui n'intervient que plus tard. Il faut qu'elle soit activée par l'immunité innée. Et elle est à l'origine de la mémoire immunitaire, celle qu'on essaye de stimuler en particulier par la vaccination.
Si je vous comprends bien, le système immunitaire est capable de se souvenir de ses agresseurs et de les combattre plus vite en cas de nouvelle attaque.
Exactement, c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, et ça c'est vraiment une caractéristique de l'immunité adaptative, c'est-à-dire celle des lymphocytes. Lymphocytes par ailleurs, hein, pour que tout le monde comprenne, dont on sait où ils habitent. Ils habitent dans les ganglions lymphatiques en particulier. Quand vous avez une angine par exemple, vous avez des ganglions, bah, c'est là qu'ils sont. Mais ils sont aussi dans la rate et puis ils sont aussi dans l'intestin. En fait, ils ont pas mal de maisons.
Marc Dairon.
Oui, fonctionnellement, finalement, si on quitte le domaine des cellules, vraiment fonctionnellement, ce qui distingue les deux grands types d'immunité, qui par ailleurs fonctionnent de façon étroitement liée, hein, bien entendu, c'est que l'immunité innée, elle est immédiate, elle s'adresse à n'importe quoi, tout de suite, alors que l'immunité adaptative, eh bien, elle va se mettre en place à la suite d'un premier contact, elle est capable de se souvenir de ce qu'elle a expérimenté, de son histoire, elle a une histoire, et elle va être capable de mettre en route rapidement, donc elle apprend. Et puis l'autre grande caractéristique, c'est qu'elle est très spécifique, c'est-à-dire que si un enfant, par exemple, est soumis au virus de la rougeole, eh bien, au début, la première fois, il a aucune raison d'être protégé, il va faire sa rougeole. Mais lorsque il est plus grand, s'il est à nouveau soumis à ce virus, ou s'il a été vacciné, bien entendu, eh bien, son système immunitaire va pouvoir immédiatement bloquer l'infection, mettre en route des choses. Ceci dit, il sera protégé contre la rougeole, il sera pas protégé contre la coqueluche. Donc, une des grandes caractéristiques de l'immunité adaptative, c'est qu'elle met du temps pour se mettre en place, elle ne marche pas le premier coup, elle est spécifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental pour définir ce que c'est qu'une réaction immunitaire adaptative.
Éric Vivier.
Non,
est-ce qu'on peut dire que notre système immunitaire se perfectionne tout au long de la vie?
Alors, tout à fait. Marc vient de le dire, en réalité. Au fur et à mesure des infections, c'est en particulier vrai pour le système immunitaire adaptatif, hein, on le comprend très bien pour le système immunitaire adaptatif, il va avoir génération de cellules mémoire. Et ces cellules mémoire, bah, elles vont pouvoir assurer une protection contre ce qui était venu avant. Okay. Donc effectivement, notre système immunitaire évolue avec le temps et devient non plus affûté en quelque sorte contre tout un tas de pathogènes qui représentent notre histoire infectieuse. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est qu'on s'aperçoit par des travaux qui sont très récents que c'est peut-être le cas aussi pour l'immunité innée. Mais ça sort du sujet.
Baptiste Beaulieu.
Et du coup, on est bien d'accord que on sait tous que les bactéries qu'on rencontre en France ne sont pas les mêmes qu'on rencontre dans des pays étrangers comme l'Inde, voilà. Mais du coup, est-ce que on s'est aperçu qu'il y avait une disparité, c'est-à-dire des cancers différents en France qu'en Inde? Est-ce que le système immunitaire français est capable de reconnaître certains cancers d'en laisser passer d'autres? Est-ce que en Inde, par exemple, le système immunitaire des hindous est capable de laisser passer certains cancers et pas d'autres?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là, même si elle est formulée de manière très simple. Ouais. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des cancers différents en fonction de telle ou telle région du monde, et pour des raisons que l'on ne connaît pas bien à l'heure actuelle. Ce que l'on sait malgré tout, c'est que notre système immunitaire est capable de marcher sur l'ensemble de la population humaine. Okay. Et donc est capable en plus de s'adapter aux différentes stimulations qu'il a pu recevoir. Voilà.
Baptiste Beaulieu.
Ouais, c'est la question que je me pose parce que j'ai soigné durant mes études dans un bidonville en Inde, et c'est vrai que les gamins là-bas, quand on parlait avec les parents, tombaient beaucoup moins malades que ce que je pouvais voir moi au cabinet médical en France. Donc c'est vrai que le système immunitaire est très très différent.
Et vous vouliez parler d'Indiens et pas d'Hindous.
Tout à fait, pardon.
Aline Perraudin.
Vous parliez du système immunitaire qui devient de plus en plus performant, mais avec l'âge, est-ce qu'au contraire, quand même, il s'affaiblit?
Alors voilà, effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a plusieurs âges dans la vie du système immunitaire, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a au départ de la vie où le système immunitaire va devoir être éduqué. Ensuite, il y a toute une partie de la vie dans laquelle le système immunitaire a pu récupérer des informations de toute l'histoire infectieuse en particulier et devenir de plus en plus affûté. Et puis à la fin de la vie, effectivement, il y a une moindre activité du système immunitaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas, on revaccine les individus à partir d'un certain âge de telle manière à leur donner un boost supplémentaire pour leur système immunitaire.
Marc Dairon.
Oui, je crois qu'on peut, décrire les choses en prenant en compte deux phénomènes qui s'ajoutent et qui fonctionnent ensemble. Le premier, c'est que le système immunitaire, c'est un petit peu comme les choses qu'on sait faire dans la vie. Le système immunitaire du petit enfant, il est ouvert à tout. Il n'a pas d'histoire, pour commencer, mais il est ouvert à tout. Il est prêt à reconnaître n'importe quoi qui va arriver. C'est d'ailleurs une des merveilles du système immunitaire, d'être capable d'avoir un système qui va reconnaître absolument tout et n'importe quoi, qui existe ou peut-être même qui n'existe pas encore. Et puis, lorsque le petit enfant est confronté à tel ou tel pathogène ou à telle ou telle expérience immunitaire, quelle qu'elle soit, il va y avoir ces phénomènes de mémoire qui se mettent en place. Il va apprendre petit à petit de plus en plus de choses. Mais il y a une espèce peut-être de mouvement inverse. Il est de plus en plus efficace pour répondre aux choses qu'il a déjà rencontrées, peut-être un peu moins capable de répondre à des nouvelles choses. Et un petit peu comme finalement, dans la vie, on apprend à faire des tas de choses, on pourrait faire des tas de choses quand on est très jeune, et puis quand on arrive à un certain âge, eh bien, on sait faire des tas de choses, mais il y en a des tas de choses qu'on ne saura jamais faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Et la deuxième chose qui vient se rajouter à cela, c'est qu'en même temps, on vieillit. Et que le système immunitaire, comme le reste des organes et des systèmes, il vieillit aussi. Et donc, il est moins performant de la même façon que nos muscles sont moins performants avec l'âge. Donc, il y a à la fois cette plus grande efficacité, plus ciblée, mais moins ouverte, plus restreinte. Et en même temps, ce vieillissement qui se fait. Et c'est cela qui fait qu'un sujet adulte est très différent, un sujet âgé est très différent d'un sujet jeune.
Le système immunitaire peut-il reconnaître un cancer? Est-ce qu'on peut parler d'une immunité qui protégerait du cancer comme on parle d'une immunité qui protège contre les maladies infectieuses, Éric Vivier?
La réponse est oui. Hein. C'est l'objet d'ailleurs du livre qu'on a écrit avec Marc. Et c'est surtout l'objet de la révolution thérapeutique qu'on est en train de vivre. Parce que, clairement, et Caroline Robert l'a rappelé dans le reportage que vous avez diffusé, il existait encore une fois avant, et quand je dis avant, c'est il y a en gros 10 ans, on parlait que de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, dans un ordre qui pouvait différer en fonction des patients et des cancers. Maintenant, on rajoute un quatrième bras à ces 3 autres bras, qui est l'immunothérapie. Et l'immunothérapie prouve que, en stimulant notre système immunitaire, et on va voir comment on fait pour le stimuler, et bien à ce moment-là, on peut bien mieux contrôler les pathologies tumorales, bien mieux contrôler les cancers que si on ne le faisait pas.
Donc l'immunothérapie va mobiliser les défenses immunitaires contre la maladie, Marc Dairon.
Il y a plusieurs grandes approches. Les premières approches, ça a consisté à faire en sorte que le système immunitaire se mette en route, reconnaisse les cellules tumorales, les reconnaisse de mieux en mieux, et soit capable de répondre. Donc ça a été la première chose. Alors on a plusieurs façons de s'y prendre. Faire en sorte que le système immunitaire du patient se mette en route, c'est les tentatives de vaccination anti-cancer. Ensuite, on peut essayer d'autres choses. On peut essayer de faire en sorte que le système immunitaire, s'il n'y arrive pas bien, on peut l'aider. On peut essayer de lui donner des produits qui vont le stimuler. Ça va être toutes les approches qui ont été fondées sur l'utilisation de cytokines. Les cytokines sont des substances naturelles du système immunitaire qui stimulent les cellules et qui vont pousser la réponse. L'autre approche qu'on peut encore faire, c'est si le système immunitaire ne réussit pas à faire les systèmes, les molécules et les cellules qui vont être responsables du rejet des tumeurs, alors on peut les lui donner toutes faites. Et ça va être 2 grands types d'approches. Des approches qui seront les anticorps thérapeutiques, les anticorps monoclonaux, qui ont été un progrès considérable pour certains cancers, et qui sont dirigés contre les tumeurs elles-mêmes, et qui permettent au système immunitaire de se cibler et d'agir sur ces tumeurs. Et la deuxième chose, ça a été de donner des cellules qui sont fabriquées pour qu'elles réagissent là. On en parlera certainement par la suite. Ce sont les cellules qu'on appelle CAR. Et puis, la troisième chose, et qui est vraiment la révolution dont nous parlons dans notre livre, eh bien, c'est que on a cessé d'essayer de pousser le système immunitaire. On a simplement compris qu'il fallait aussi lever les freins. Et c'est ça qui a été la dernière révolution.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un antigène? L'antigène est capable, c'est ça, de déclencher une réaction de notre système immunitaire. C'est très important en immunothérapie, Éric Vivier?
Oui, alors tout à fait. En fait, notre système immunitaire, il est capable de reconnaître des millions et des millions et des millions de molécules différentes. Et à chaque fois qu'il peut reconnaître de manière efficace une molécule différente, on appelle ça un antigène.
Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous, Isabelle?
Alors, j'appelle de Ferney-Voltaire.
Alors,
la frontière genevoise.
Alors, vous êtes atteinte d'un cancer, c'est ça?
Alors écoutez, moi, pour faire bref, parce que j'ai 7 ans de maladie, j'ai eu à 7 ans un cancer du pancréas. Mmh. Bon, évidemment, on m'avait donné 3 mois, j'ai survécu, voilà. J'ai eu des traitements très violents et une opération sans fin, bon, j'en suis sortie. Et puis il y a un an, un peu plus d'un an, on m'annonce une récidive. Donc ça a été la catastrophe parce que j'étais pas du tout prête à recommencer ce traitement terrible pour le cancer du pancréas. Bon, enfin bon, j'ai fini par m'y soumettre. Et au moment où on allait me faire l'injection, le médecin déboule chez les infirmières en disant stop, ça n'est pas un cancer du pancréas, c'est un cancer du poumon apparemment. Donc biopsie du foie, du poumon, parce qu'il y avait des tumeurs des deux côtés. Et puis donc on se rend compte que c'est un nouveau cancer, que c'est pas une récidive du pancréas. Et donc il faut faire de la chimiothérapie. J'ai fait de la chimiothérapie pendant 9 mois. Les résultats étaient bons. Enfin, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. J'en avais vraiment plus cassé. Et l'oncologue me dit, écoutez, plan B, immunothérapie. 40% de vos cellules justifient de faire de l'immunothérapie. Donc j'imagine RCP, il a fallu convaincre aussi la sécu, parce que je crois que ce sont des traitements excessivement chers, que j'étais potentiellement guérissable et que ça valait le coup d'essayer. Donc j'ai commencé au mois d'octobre dernier. J'ai fait le scanner à Noël, en ne sachant pas si ça avait marché ou pas, puisque je ne développais à côté aucun symptôme. Là, apparemment, je fais partie des 20% chez qui ça marche. Mmh. Est-ce que ce chiffre est juste? C'est celui qu'on m'a donné. Toujours est-il que la tumeur au foie a disparu et la tumeur du poumon a réduit de 50%. Mmh. Voilà. Donc, du coup, rebelote, je continue l'immunothérapie et je dois dire qu'au niveau des effets secondaires, c'est pas comparable avec la chimio, quoi.
C'est-à-dire, Isabelle?
Je ne ressens rien. Ben, j'ai dit à l'oncologue, écoutez, est-ce que vraiment vous pensez que le traitement marche? Puisque je ne suis pas malade, je ne vomis pas, je suis même plutôt en pleine forme. Tout mon entourage me dit, mais c'est incroyable, tu as le teint a changé, j'ai repris la marche, je fais du ski. Enfin, voilà, quoi, je me sens plutôt en pleine forme. Je ne développe pas de maladie auto-immune, qui était un des risques, paraît-il, de l'immunothérapie. À part des démangeaisons, parce que chez certains endroits de la peau, ça me gratte, c'est terrible, je n'ai aucun effet secondaire, et voilà.
Très beau témoignage, Isabelle, très éclairant. Je rappelle juste que la RCP, vous parliez de RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Éric Vivier, Marc Dairon, sur le témoignage d'Isabelle.
C'est la preuve par neuf, hein. C'est la preuve par neuf qu'effectivement, quand on arrive à booster notre système immunitaire, et comme Marc l'a dit, on le fait en fait en le débloquant, parce qu'il est là, il est aussi tumoral, mais il est un peu comme la belle au bois dormant, hein. Il est endormi et il ne travaille pas, donc on le débloque par les médicaments dont on va parler, et qu'a reçu votre auditrice, et on voit que dans certains cas, ça marche très bien. Malheureusement, et je pense qu'on va en reparler aussi, il reste des progrès à faire.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, on voit que c'est vraiment une révolution pour certaines personnes, mais comment expliquer que pour certaines personnes, ça bouleverse complètement le diagnostic et pour d'autres, ça ne marche pas? Parce que je pense que c'est pas très clair pour les personnes. Quand vous parliez de système immunitaire qui marcherait contre toutes les cellules, en fait, et cancéreuses, et en fait, non.
Bon, c'est une très bonne question, hein. C'est une question qui est adressée par de très très nombreux laboratoires, qu'ils soient des laboratoires académiques, hospitaliers ou industriels à travers le monde. On essaye de savoir pourquoi l'immunothérapie telle qu'elle a été présentée là par votre auditrice, effectivement marche chez certains et ne marche pas chez d'autres. Il y a beaucoup de pistes. On essaye de savoir en particulier s'il y a bien les molécules qu'il faut, s'il y a bien les cellules qu'il faut. On ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui on est en train de disséquer ces mécanismes-là, mais on ne les connaît pas.
Merci beaucoup Isabelle et bon courage à vous. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Allez, il est déjà l'heure de la chronique. Alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, toutes les semaines, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Eh bien oui, Ali, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit cas de conscience auquel sont souvent confrontés les soignants, celui de la difficulté de choisir entre une posture déontologique ou conséquentialiste. Je vais m'expliquer. Imaginez, Ali, que vous êtes médecin. Vous connaissez ou vous avez connu des patients qui sont atteints de cancer, parfois trop graves pour qu'un traitement curatif soit envisagé. Vous devez alors, à chaque fois, expliquer avec beaucoup de précaution que le traitement s'oriente vers une prise en charge palliative, c'est-à-dire, dans votre jargon de médecin, une prise en charge active et multidisciplinaire visant à améliorer le confort du patient. Pour le dire autrement, les carottes sont cuites, on va se défoncer pour qu'il souffre le moins possible sur le peu de temps qui lui reste. Eh bien, docteur Ali, les familles viennent parfois vous supplier de ne rien dire aux malades. Car, explique-t-elle, nous le connaissons. S'il comprend que c'est foutu, il va baisser les bras et arrêter de se battre. Eh bien, force est de constater qu'effectivement, les familles qui ont une bien meilleure connaissance de leurs proches que vous ont souvent raison. Quand il apprend que tout espoir de guérison est vain et que vous vous orientez donc vers des soins dits de confort, votre malade abandonne et la maladie l'emporte beaucoup plus rapidement. Que faire? Si vous êtes un médecin penchant du côté déontologiste, vous répondrez que la règle prévaut sur toute autre considération. En tant que patient, c'est sa maladie. Il a le droit de connaître ce qu'il en est de son état. Vous ne devez ni lui mentir, ni lui cacher la vérité. Si vous êtes un médecin penchant du côté conséquentialiste, votre pente naturelle vous amènera à penser que le résultat de l'annonce doit être pris en compte dans la décision d'annoncer ou pas toute la réalité de sa maladie au malade. Autrement dit, si savoir la vérité présente un risque ou une perte de chance pour la santé de votre malade, pour lui, alors on peut travestir cette vérité parce que finalement, seule la vie est importante et qu'elle prévaut sur n'importe quel principe. Alors souvent, il semble évident que la réponse est la réponse déontologiste. Mais dans les faits, quand vous avez les mains dans le cambouis, vous apercevez vite combien les choses sont plus compliquées que ça. Oscar Wilde disait « La vérité pure et simple est très rarement pure et jamais simple. » Sans doute la bonne marche à suivre se trouve-t-elle entre ces deux pôles. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, vous savez quoi, je vais relire les ouvrages de Ruel Nogien, des ouvrages de philosophie morale pour vous répondre la semaine prochaine. Éric Vivier, Marc Daéron.
C'est une question extrêmement difficile. Hein. Je pense que ça se fait vraiment au cas par cas.
Les vidéos des chroniques de Baptiste Beaulieu sont à voir sur le site et la page Facebook de France Inter et sur votre blog, hein, Baptiste Beaulieu. Alors voilà. Allez, nous attendons toutes vos questions sur l'immunothérapie des cancers et vos témoignages au 01 45 24 7000. False interprété, Exits.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart et on s'intéresse ce matin à l'immunothérapie des cancers, cette révolution médicale qui change déjà la vie de nombreux malades. Une révolution sans doute comparable à la découverte des antibiotiques, me disiez-vous hors antenne. Éric Vivier, vous avez coécrit avec Marc Dairon l'immunothérapie des cancers chez Odile Jacob.
Oui, effectivement, une révolution thérapeutique, ça se caractérise par certains aspects, en particulier par le fait que on va changer complètement la manière dont on va traiter les patients. C'est ce qui s'est passé quand Fleming, dans les années 1920, découvre la pénicilline et on s'aperçoit qu'on peut enfin essayer de se battre contre les bactéries. Et bien là, aujourd'hui, on en est à peu près au même niveau de l'histoire. C'est-à-dire que on l'a vu à travers le témoignage de votre auditrice, il y a des fois, ça marche très très bien. Et on en est tous très très contents. À la fois les chercheurs, à la fois les médecins et à la fois l'industrie pharmaceutique. Et puis, dans quelques cas, ça marche pas. Et bien, parce qu'on est au début d'une histoire. Et cette histoire, elle doit être complétée par la recherche, complétée par une espèce de lien qu'il faut continuer à créer entre les chercheurs, les médecins et l'industrie pharmaceutique.
Marc Dairon.
Oui, je crois que peut-être un des points qu'on peut dire à ce stade, c'est que aujourd'hui, ces nouvelles approches thérapeutiques, elles ciblent un nombre très restreint de molécules qui sont ces freins dont on parle depuis tout à l'heure. Essentiellement deux, et une encore plus que l'autre. Or, il se trouve que nous, chercheurs fondamentaux dans notre activité première, eh bien, nous savons bien, parce que aussi nous avons contribué à travailler dessus, qu'il y a des dizaines et des dizaines de molécules qui sont capables de faire la même chose, qui n'ont aucune d'entre elles n'a été testée pour sa capacité à aider le système, à libérer le système immunitaire de ses freins quand il pour agir sur le cancer. Donc il y a un potentiel extrêmement important et il y a énormément de travail possible à faire. Donc comme le disait Éric Vivier, je crois vraiment qu'on est au début d'une histoire.
Écoutons Nicolas Girard de l'Institut Curie et William atteint d'un cancer du poumon. C'était sur France 5.
Je suis content de revenir parce que je sais que je vais avoir mon shoot qui va me redonner la pêche.
Non mais sérieusement, vous ressentez la perfusion?
Là, demain, je vais être encore un peu fatigué, le temps que ça se mette en place. Mais à partir d'après-demain, je veux dire, pas faire un marathon quand même, mais...
Tous les 15 jours, William Arnold bénéficie d'une perfusion pendant près d'une heure. Objectif du traitement, stimuler ses défenses immunitaires pour qu'elles apprennent à se battre contre le cancer.
En fait, les cellules cancéreuses, elles sont très différentes du reste de l'organisme parce qu'elles sont très perturbées. Elles devraient être reconnues normalement par nos défenses immunitaires. Et là, ce qui se passe, c'est que certains cancers mettent cette sorte de masque sur lui. Et donc, du coup, le masque fait que nos défenses passent devant sans s'apercevoir de quoi que ce soit. Avec l'immunothérapie, on va faire tomber le masque. C'est exactement ça. On fait tomber ce masque qui est la cible de l'immunothérapie. Et donc, d'un seul coup, le système immunitaire se dit « mais... attention, il y a tout ce cancer qui est là, et hop, se concentre dessus pour détruire les cellules cancéreuses. »
Éric Vivier, petite précision sur ce que dit Nicolas Girard de l'Institut Curie.
Oui, je pense que Marc me démentira pas. On peut faire des analogies, on doit prendre des images. Si on doit prendre une image, je pense qu'il faut mieux prendre celle du frein que celle du masque. Parce que les cellules du système immunitaire que l'on veut essayer de booster, de réveiller, elles sont là, elles peuvent reconnaître, mais elles sont bloquées, donc on veut les débloquer.
Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Vous habitez à Bois-d'Arcy, en région parisienne. Alors, vous êtes en rémission totale d'un cancer du poumon. Quels ont été les premiers traitements contre ce cancer du poumon, Michel?
Alors, ce cancer du poumon a été diagnostiqué en septembre 2014. Mmh. Et j'ai eu deux protocoles de chimiothérapie, cisplatine, carboplatine, Avastin. Mmh. Ensuite, j'ai eu une de radiothérapie parce que la maladie ne partait pas, n'était pas complètement anéantie. Et ensuite, ça a duré jusqu'au mois de mai 2015. On a voulu me mettre sous le protocole Tarceva par voie orale. Ça, j'ai absolument pas supporté, j'étais épuisée. Donc, j'ai décidé d'arrêter. C'est là que mon oncologue m'a proposé l'immunothérapie qui était sur le marché depuis le mois de mai 2015.
Alors vous nous avez dit hors antenne, Michel, que vous avez dû mériter, entre guillemets, cette immunothérapie.
Tout à fait. C'était, en fin de compte, l'immunothérapie, c'était surtout ma dernière chance. Mmh. Et j'ai eu de la chance que ça arrive, qu'elle soit sur le marché cette année-là.
Comment se passe le traitement ?
Le traitement, ça consiste en on appelle ça une cure, c'est une injection de une heure à peu près tous les 15 jours.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois après cette immunothérapie?
Alors, on a commencé en septembre 2015. Mmh. On a fait un TEP scan de vérification en février 2016 et on s'est aperçu qu'il y avait rémission totale. Mmh.
Et vous nous avez dit, hors antenne, que l'immunothérapie a permis de gagner du temps et surtout à cibler l'endroit à détruire avant l'opération.
Oui, alors j'ai eu cette immunothérapie donc de septembre 2015 jusqu'en juin 2017. On a arrêté le traitement en juin 2017 parce que je déclarais des pneumopathies. C'est un des incidents qui peuvent survenir avec l'immunothérapie. Donc pour ne pas prendre de risque, on a arrêté le traitement. J'étais toujours sous surveillance avec scanner, TEP scan deux fois par an. Et au mois de septembre 2018, on s'est aperçu que le nodule primitif de ce cancer métastatique avait regrossi et était à nouveau en activité. Il était situé sur le lobe supérieur gauche. Et donc a été décidée une chirurgie, ce qui n'était pas réalisable avant, puisqu'il était métastatique. Donc c'était une chance de guérison, parce que l'immunothérapie avait fait son boulot, avait enrayé tout le mal dans le reste de mon corps. On pouvait maintenant procéder à la chirurgie, qui n'était pas possible en première intention.
Témoignage très éclairant et très précis de Michel, Éric Vivier.
Témoignage très important aussi, parce qu'il montre bien que le futur va vers la combinaison des traitements. Ceux qui existent déjà, et en particulier la chirurgie, et la radiothérapie, et cette chimiothérapie dont on parle depuis le départ, mais couplée avec de l'immunothérapie. Et comme on est au début de l'histoire, il va falloir comprendre comment les articuler avec le temps.
Merci beaucoup Michel d'avoir témoigné ce matin. Bernard, sur notre page Facebook, nous demande « L'immunothérapie ne fonctionnerait que sur certains types de cancers ?» Et dans le même sens, Anouchka, par courriel, nous dit « Ma mère était atteinte d'un cancer colorectal. Après une batterie de tests, on lui a dit qu'elle n'était pas apte pour l'immunothérapie. » Éric Vivier.
Oui, bah tout à fait. Alors, sur la première question, c'est vrai et c'est pas vrai. Puisqu'en fait, contre l'immunothérapie, a ceci aussi de révolutionnaire que pour la première fois depuis l'histoire de l'oncologie, un médicament d'immunothérapie, un médicament tout court, a été approuvé pour tous les types de cancers, quelle que soit leur localisation. Alors bien sûr, il faut qu'ils aient certaines caractéristiques, des caractéristiques génétiques, mais ça montre bien que, en tout cas de manière théorique et dans certains cas, pour certains médicaments, cette immunothérapie peut marcher dans tous les types de cancers de manière théorique, encore une fois.
Aline Perraudin, beaucoup, beaucoup de questions sur le coût de l'immunothérapie.
Oui, parce qu'on a comparé l'immunothérapie aux antibiotiques, mais le coût des antibiotiques n'a pas été fixé en fonction des morts évitées, alors que l'immunothérapie, la coûte très cher, au moins 80 000 euros par an, et c'est vrai que ça peut peser très lourd sur le budget de l'assurance maladie, et qu'il y a des associations, la société civile, des médecins qui réclament un petit peu, qu'on discute de ce juste prix. Et quel pourrait être ce juste prix ?
Éric Vivier.
Non, c'est clair qu'il faut en discuter. Hein. C'est un très gros sujet. Avant d'avoir des positions à l'emporte-pierre, ce sujet qui sont difficiles, il faut avoir, je pense, quelques éléments en tête. Un médicament va demander 20 ans d'investigation et va coûter 1 milliard.
Il est mis sur le marché de plus en plus tôt aussi. On voit bien que, notamment en immunothérapie, on n'attend plus toutes les phases 1, 2, 3. Et que, voilà. Et y a aussi la recherche publique qui participe aussi à la mise en place de ces médicaments.
Évidemment, la recherche publique participe beaucoup à l'ensemble de ces médicaments. D'ailleurs, elle a été à l'origine de l'ensemble de ces découvertes. Pour autant, encore une fois, il faut bien avoir en tête que la mise sur le marché d'un médicament va demander globalement 20 ans et 1 milliard. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête avant de discuter du prix du médicament.
Et pour la clarté du débat, Éric Vivier, je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de la société de biotechnologie Inat Pharma. Bonjour Régine.
Oui, bonjour.
Vous appelez du Pas-de-Calais. Alors vous avez bénéficié d'une immunothérapie depuis près de 2 ans.
Oui, absolument.
Quels sont les effets de cette immunothérapie?
Suite à un carcinome urothélial, donc il y a eu une dissémination ganglionnaire et je suis suivie donc par immunothérapie depuis près de 2 ans. Alors tout allait bien, en forme, aucun effet secondaire et stabilisation donc de ce ganglion malade depuis juillet dernier. Et d'un seul coup, il y a juste un mois, j'ai développé brutalement un diabète de type 1, c'est-à-dire insulino-dépendant. Alors, l'oncologue qui me suit, enfin l'équipe médicale qui me suit, m'a mis pour le moment en mode pause, hein, parce que j'avais une injection toutes les 3 semaines. Le médicament, c'est l'atezolizumab. Donc là, je suis en mode pause et j'attends un peu la décision de l'équipe médicale.
Marc Dayron. Oui. Très vite, effectivement, le problème est relativement simple à comprendre. Il est plus compliqué à maîtriser. À comprendre, c'est très simple. Le système immunitaire, normalement, est sous un étroit contrôle pour qu'il fasse pas n'importe quoi. En particulier, pour qu'il n'agresse pas les cellules normales de l'organisme. Nous libérons ce système de contrôle de telle sorte qu'il puisse agir sur les cellules tumorales. En même temps, nous le libérons de tout. Donc, il va se mettre aussi à faire ce qu'il est empêché de faire normalement et ce pourquoi ces systèmes de régulation existent. Donc l'auto-immunité, et le diabète de type 1 est un exemple typique, est malheureusement un des risques de l'immunothérapie.
Merci beaucoup Régine de nous avoir appelé. Bonjour docteur Sophie Danel-Bocquer, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes oncologue spécialiste des cancers de la cage thoracique à l'Institut Curie. Pourquoi l'immunothérapie représente pour vous, en tant que médecin et chercheuse, une révolution dans votre pratique médicale ?
Ben, ça a vraiment énormément changé le pronostic et la prise en charge de nos patients. C'est vrai que le pronostic du cancer du poumon était très péjoratif, avec des taux de survie faibles, beaucoup de patients qui malheureusement mouraient au bout de 12 mois. Et l'immunothérapie, qui est un médicament qui est globalement très bien toléré, est effectivement révolutionnaire dans le sens où les patients qui répondent, donc comme vous l'avez très justement dit, tous les patients ne répondent pas, mais ceux qui répondent, répondent de manière prolongée et avec peu d'effets secondaires. Et avant, on avait effectivement 70% des malades qui mouraient avant un an, et actuellement on a plutôt 70% des malades qui répondent à l'immunothérapie.
Merci
et
beaucoup.
Qui seront en vie après un an.
Merci beaucoup, docteur Sophie Bocquer Danel, d'avoir terminé cette émission avec nous. Merci, hein, Marc Dayron, Éric Vivier. Je recommande vraiment l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale. C'est publié chez Odile Jacob. Demain, nous recevons la journaliste Elisabeth Quin, atteinte d'un glaucome. C'est l'occasion d'évoquer cette maladie silencieuse qui peut rendre aveugle. Nous évoquerons également la peur de perdre la vue. Si vous êtes atteint d'un glaucome, si vous craignez de perdre la vue à cause de cette maladie des yeux ou d'une autre, nous attendons vos témoignages au standard de France Inter au 01 45 24 7000.